Chapitre 86. Harman ne resta que quelques secondes le pistolet pointé sur son front. Alors même qu'il posait le doigt sur la détente, il sut qu'il n'allait pas en finir de cette manière. Le suicide est une preuve de lâcheté, et si terrifié fut-il par l'imminence de sa mort, il ne tenait pas à finir sa vie en lâche. Pivotant sur lui-même, il visa l'imposante proue de l'antique sous-marin qui saillait de la paroi nord de la brèche atlantique et tira jusqu'à ce que l'arme ait craché ses 9 projectiles. Sa main tremblait tellement qu'il n'aurait su dire s'il avait atteint sa cible, mais cette séance de tir lui avait permis de focaliser et d'exorciser la rage et la révulsion que lui inspirait la folie de ses semblables. La thermopompe souillée se révéla difficile à enlever. Il la jeta au loin sans même tenter de la nettoyer. La crise de diarrhée et de vomissement l'avait laissé tout tremblant, mais il n'envisagea même pas de se rhabiller, et il se mit en route vers l'ouest dès qu'il eut recouvré l'équilibre. Harman n'avait pas besoin d'ouvrir ses fonctions biométriques pour savoir qu'il se mourait à petit feu. Il sentait les radiations lui ronger les tripes, les boyaux, les testicules, les os. La faiblesse qui le gagnait lentement lui faisait l'effet d'un maléfique homoncule s'éveillant en lui. Il se mit en marche vers l'ouest, vers Ada et Ardis. Son esprit demeura en paix plusieurs heures durant, se manifestant seulement lorsqu'il risquait de marcher sur un rocher pointu ou de s'égarer parmi les efflorescences de corail. Il percevait vaguement les murailles de la brèche qui ne cessaient de grandir, l'océan devenait de plus en plus profond, l'air qui ne cessait de se rafraîchir. Mais le soleil brillait toujours dans le ciel. En milieu d'après-midi, comme il baissait la tête, il vit que ses cuisses et ses mollets étaient striés de sang et, se dirigeant d'un pas hésitant vers la paroi sud, il plongea une main dans le champ de force, ressentant aussitôt la froideur et la pression de l'eau et collecta suffisamment d'eau salée pour se laver un peu. Puis il reprit sa route. Lorsqu'il se remit à réfléchir, il constata avec satisfaction qu'il n'était plus obnubilé par cet engin obscène et sa meurtrière cargaison, lesquelles avaient disparu derrière lui depuis un bon moment. C'était à sa propre vie qu'il songeait, à ses presque 100 ans d'existence. D'abord en proie à un sentiment d'amertume, toutes ces décennies gâchées à faire la fête et à se faxer un peu partout en quête d'une soirée ou d'une célébration, il finit bien vite par s'accorder le pardon. Au cours de cette existence factice, il avait connu des instants de bonheur et même de réalité, et l'année écoulée, placée sous le signe de l'amitié, de l'amour et d'un engagement sincère, compensait amplement la période superficielle qui l'avait précédée. Il pensa au rôle qu'il avait joué dans cette dernière année et trouva à nouveau la force de s'accorder le pardon. La poste humaine qui disait s'appeler Moira le traitait malicieusement de nouveau Prométhée. Mais il se voyait plutôt comme un mélange d'Adam et d'Ève, ceux qui, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance qui poussait dans le jardin de l'indolence, s'était à jamais exilé de ce séjour de santé et de vacuité mentale. Qu'avait-il donné en échange à Ada, à ses amis, à son espèce? La lecture? Aussi essentielle que fussent à ses yeux la lecture et le savoir auquel elle donnait accès, il se demanda si ce talent, potentiellement plus puissant que les 100 fonctions qui venaient de s'éveiller en lui, était susceptible de compenser la terreur, la souffrance, le doute, et la mort qui les attendait tous. Peut-être n'y était-il pas obligé, comprit-il. À mesure que le soir assombrissait la bande de ciel au-dessus de lui, les pensées d'Harman s'orientèrent vers la mort. Sa propre mort, il le savait, surviendrait dans quelques heures, peut-être moins, mais quid du concept même de mort, que lui et les siens n'avaient jamais eu à affronter jusqu'à une date récente? Il effectua une recherche approfondie parmi toutes les données collectées durant son passage dans le cabinet de cristal et découvrit que la mort, la peur de la mort, l'espoir d'une résurrection, la curiosité relative à la mort, était le principal aiguillon de la littérature et de la religion dans toutes leurs manifestations connues, et ce depuis au moins 9 millénaires. La dimension purement religieuse du phénomène dépassait sa compréhension. Le seul contexte dont il disposa à cet égard était la crainte que lui inspirait l'imminence de son trépas. Plusieurs milliers de cultures, réparties sur des milliers d'années, avaient en commun la volonté de savoir, à n'importe quel prix, si la vie se poursuivait même après la fin de la vie. Il tiqua à maintes reprises tandis que son esprit triait les concepts liés à la vie après la mort. Le Valhalla, le paradis, l'enfer, le séjour céleste promis par l'islam et que les sous-mariniers étaient si impatients de gagner, l'assurance qu'une vie vertueuse garantissait la survie dans la mémoire de l'espèce. Puis relatif à une résurrection terrestre, le mandala, la métempsychose, les 9 voies vers le centre du Wu. À ses yeux et à son cœur, tout cela était aussi splendide, aussi vain, aussi vide qu'une toile abandonnée par son araignée. Tout en s'enfonçant vers les ombres qui se massaient à l'ouest, Arman s'aperçut qu'entre toutes les conceptions de la mort archivées dans ses cellules et jusque dans son ADN à l'agonie, celle qui l'émouvait le plus étaient les tentatives littéraires et artistiques visant à explorer sa dimension humaine, une sorte de défi lancé par le génie. Arman examina des reproductions des derniers autoportraits de Rembrandt, pleurant à chaudes larmes devant la terrible sagesse de ce visage. Il écouta son propre esprit lire à haute voix la version intégrale d'Hamlet et comprit, comme d'innombrables générations avant lui, que ce prince vieillissant tout de noir vêtu était peut-être le seul authentique ambassadeur du royaume des ombres. Arman constata qu'il pleurait non pour se lamenter sur son propre sort, ni même parce qu'il allait perdre Ada et leur enfant à naître qui ne lui sortait jamais de l'esprit, mais tout simplement parce qu'il n'avait jamais vu une pièce de Shakespeare. S'il avait regagné Ardis en parfaite santé plutôt que sous l'aspect d'un squelette mourant et sanguinolent, il aurait insisté pour que le groupe représente une pièce de Shakespeare s'il parvenait à survivre au Voynix. Mais laquelle ? Cette question des plus intéressantes lui occupa l'esprit assez longtemps pour qu'il ne remarque point que le ciel virait au crépusculaire, pas plus qu'il ne remarqua l'apparition des étoiles et des anneaux, ni le froid glacial qui descendait sur la brèche de plus en plus profonde, s'insinuant dans sa peau, puis ses chairs, puis ses os. Vint le moment où il n'eut plus la force de poursuivre. Il ne cessait de trébucher sur les rochers et autres obstacles. Il ne distinguait même plus les parois de la brèche. Partout régnaient les ténèbres et le froid, un avant-goût de la mort. Arman ne voulait pas mourir. Pas encore. Pas maintenant. Il s'allongea sur le sable et se recroquevilla en position fœtale, sentant les grains abrasifs lui meurtrir la peau, ce qui lui prouva sans l'ombre d'un doute qu'il était encore vivant. Il se prit à bras le corps en claquant des dents, ramena ses genoux contre son torse et les serra contre lui, frissonnant de tous ses membres mais rassuré à l'idée d'être encore en vie. Il regrettait un peu d'avoir abandonné son sac à dos ainsi que le duvet et les vêtements qu'il contenait. Son esprit lui rappela l'existence des barres nutritives, mais son estomac ne voulait pas en entendre parler. Durant la nuit, Arman dut s'éloigner à plusieurs reprises du nid de sable qu'il s'était creusé, rampant péniblement pour aller vomir ailleurs, pour cracher sa bile et rien d'autre. Cela faisait des heures que son estomac s'était vidé. Puis il retournait lentement, laborieusement, vers la petite dépression en forme de fœtus, anticipant la chaleur ténue qu'il allait y retrouver, comme jadis il aurait anticipé un repas plantureux. Quelle pièce ! La première qu'il ait lue n'était autre que Roméo et Juliette, et il lui conservait une place dans son cœur. Il réexamina le roi Lear, jamais, le jugeant parfaitement approprié à un mourant comme lui, bien qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour voir son fils ni sa fille, mais la communauté d'Ardis trouverait peut-être cette première expérience shakespearienne un tantinet traumatisante. Comme il faudrait sélectionner les acteurs dans ses rangs, il se demanda lequel d'entre eux interpréterait le vieux Lear. Odysseus Personne était le seul visage qui s'imposa à lui. Il se demanda comment il s'était sorti d'affaire. Arman tourna ses yeux vers le ciel et contempla les anneaux qui tournaient sur fond de firmament, un spectacle dont la beauté ne lui était jamais apparue avec autant d'évidence qu'en cette nuit d'horreur. Une flèche étincelante, bien plus brillante que tous les objets composant les anneaux, déchira l'espace d'onyx, traversa l'anopée sur toute sa largeur, puis, arrivé devant les étoiles, disparut derrière la paroi sud de la brèche. Arman ignorait de quoi il s'agissait. Vu la durée du phénomène, ce n'était pas un simple météore. Mais une telle distance l'en séparait que cela n'avait sûrement aucun rapport avec lui. Reprenant sa méditation sur la mort et sur Shakespeare, et se demandant toujours quelle pièce il conviendrait de monter en premier, il tomba sur un passage intéressant stocké dans son ADN. C'était une tirade prononcée par Claudio dans Mesure pour mesure, alors que ce personnage est confronté à sa prochaine exécution. Oui, certes, mais mourir et aller on ne sait où? Être couché dans l'immutabilité froide et pourrir? Ce corps sensible et chaud devenir une argile pétrifiée? Plonger cet esprit voluptueux dans des ondes de feu ou séjourner dans les régions frissonnantes encerclées de glaces épaisses? Être emporté par les invisibles ouragans, rouler avec violence et sans trêve tout autour de ce monde suspendu dans l'espace? Être pire que les plus misérables de ces damnés qui, dans les hurlements, enfantent de troubles et illégitimes pensées? Cela est trop horrible. La vie terrestre la plus morne et la plus pénible que l'âge, la douleur, le dénuement ou la prison puissent infliger à la créature est un paradis auprès de notre peur de la mort. Armand s'aperçut qu'il pleurait, que son corps glacé, recroquevillé, était secoué de sanglots. Mais pas par crainte de la mort, ni parce qu'il se savait sur le point de tout perdre, non. Il pleurait de gratitude à l'idée que son espèce avait pu engendrer l'auteur de ses lignes, le créateur de ses idées. Cela compensait presque, presque, les idées qui avaient présidé à la conception, à la fabrication et à la mise en œuvre de ce sous-marin porteur de 768 trous noirs, prêt à dévorer l'avenir de toute chose. Soudain, il éclata de rire. Son esprit venait de sauter à l'ode de John Keats, à un rossignol, et il vit, sans qu'on ait besoin de le lui montrer, l'allusion à Shakespeare contenue dans ses vers adressés à l'oiseau. « Tu chanterais toujours à mes oreilles sourdes, ton noble requiem serait pour de l'argile. » Pétrifié chez Claudio et sourde chez Johnny. « Bravo pour l'argile » s'écria-t-il. Cette saillie lui valut une quinte de toux, et lorsqu'il examina sa main au clair des anneaux, il vit qu'il avait craché du sang et perdu trois dents. Poussant un gémissement, Armand se pelotonna dans le sable, frissonna et ne put réprimer un sourire. Son esprit agité ne cessait de solliciter Shakespeare, tout comme sa langue se dardait sans répit vers les trois trous laissés par ses dents. C'était un couplet issu de Cymbeline qui le faisait sourire. « Garçons et filles chamarrés doivent tous retourner à la poussière, comme les ramoneurs. » Il venait tout juste de saisir le jeu de mots. Quel génie aurait l'aplomb d'épicer cette triste lamentation d'un calembour infantile, s'émerveilla-t-il. C'est avec cette pensée qu'il glissa comme par mégarde dans un sommeil glacé, insensible à la pluie froide qui commençait à l'arroser. Il se réveilla. Ce prodige fut le premier. Il ouvrit ses yeux encroûtés de sang au sein d'une fausse aurore froide, grise et humide, entourée par deux murailles d'eau noire de 150 mètres de haut. Mais il avait dormi et il se réveillait. Deuxième prodige, il était capable de bouger, même si c'était long et pénible. Un quart d'heure lui fut nécessaire pour se mettre à quatre pattes, mais il y réussit et rampa jusqu'au rocher le plus proche. Et au bout de 10 minutes supplémentaires, il parvint à tenir debout sans tomber. À présent, il était prêt à reprendre sa marche vers l'ouest, sauf qu'il ne savait plus de quel côté se diriger. Impossible de s'orienter. La brèche s'étendait à l'infini, sur sa droite comme sur sa gauche, mais il était incapable de distinguer l'est de l'ouest. Tremblant de tous ses membres, perclus de douleurs qui dépassaient son imagination, Armand se mit à tourner en rond, cherchant les traces qu'il avait laissées la veille, mais le sol était en grande partie rocheux et la pluie, qui avait failli le faire mourir de froid, avait effacé l'empreinte de ses pieds. Chancelant, il fit 4 pas dans une direction, puis persuadé qu'il retournait vers le sous-marin, effectua un demi-tour pour en faire 8 dans l'autre. Rien à faire. Les nuages étaient si bas qu'on aurait dit qu'ils voulaient s'abîmer dans la brèche. Impossible de distinguer l'Orient de l'Occident. Armand ne supportait pas l'idée de retourner près de ce sous-marin porteur du mal absolu, de perdre le terrain qu'il avait si laborieusement gagné la veille. il se dirigea en trébuchant vers la paroi de la brèche. Paroi sud ou paroi nord, il n'aurait su le dire, et contempla son reflet à la lueur pâle et grise de la fausse aurore. Il ne parvint pas à se reconnaître. Son corps nu était déjà squelettique. Des poches de sang s'amassaient un peu partout sous son épiderme, sur ses joues creuses, sur son torse, au niveau de ses bras, de ses jambes flageolantes et sur son ventre gonflé comme une outre. Il fut pris d'une nouvelle quinte de toux et cracha deux autres dents. En s'examinant dans le miroir liquide, il crut qu'il avait pleuré des larmes de sang. Comme pour s'apprêter un peu, il écarta ses cheveux de son front. Il resta un long moment à fixer sa main. Une poignée de cheveux gisait entre ses doigts, comme s'il tenait le cadavre d'une petite créature entièrement composée de poils. Il le lâcha, se passa de nouveau la main sur le crâne, nouvelle chute de cheveux. Harman se tourna vers son reflet, découvrit un mort-vivant déjà bien dégarni. La chaleur le frappa dans le dos. Il se retourna, manquant tombé par terre. C'était le soleil qui se levait au fond de la brèche derrière lui. Parfaitement aligné avec l'axe de la tranchée, le baignant de ses rayons et de sa chaleur, avant de se faire engloutir par les nuages. Quelles étaient les chances pour que le soleil se lève exactement dans cet axe ce matin-là, comme si Harman était un druide posté à Stonehenge pour y attendre l'aurore équinoxiale? Il se sentait tellement étourdi que, s'il ne se dépêchait pas d'agir, il risquait d'oublier de quel côté poignait le soleil. Tournant le dos à la chaleur qui se dissipait déjà, il se remit en marche d'un pas hésitant. Vers midi, les nuages se dispersaient entre deux averses, ce qui lui permettait d'entrevoir le soleil. L'esprit d'Harman avait cessé d'être pleinement connecté à son corps. Plutôt que d'avancer en ligne droite, il zigzaguait d'une paroi à l'autre, insérant délibérément sa main dans le champ de force pour se secouer un peu et se forcer à poursuivre. Tout en marchant, il se demandait à quoi pourrait, ou aurait pu, ressembler l'avenir de ses semblables. Pas seulement les survivants d'Ardis, mais tous les humains à l'ancienne ayant échappé à l'impitoyable attaque des Voynix. À présent que le monde d'avant était perdu corps et bien, quel type de gouvernement, de religion, de société, de culture, de politique serait-il susceptible de créer? Un nodule de mémoire protéinique niché dans les profondeurs de son ADN crypté, un nodule qui ne périrait que longtemps après que ses dernières cellules auraient fini de pourrir, lui souffla une citation des cahiers de prison d'Antonio Gramsci. On peut ainsi définir une situation de crise. L'ordre ancien est moribond et ce qui est nouveau n'arrive pas à venir au monde. Durant cet interrègne, toutes sortes de symptômes de morbidité font leur apparition. Il éclata de rire, réaction qui lui coûta une nouvelle incisive. Symptômes de morbidité, tu peux le dire. Grâce à un bref examen contextuel, il apprit que Gramsci était un intellectuel favorable à la révolution, au socialisme et au communisme, ces deux derniers termes désignant des théories mortes et enterrées vers le milieu de l'ère perdue, époque où on avait enfin pris conscience de leur naïveté foncière. Mais le problème de l'interrègne n'avait jamais cessé de se poser, et voilà qu'il se posait une nouvelle fois. Au cours des semaines et des mois précédant le moment où Harman avait stupidement abandonné sa bien-aimée Ada, celle-ci avait préparé son peuple à adopter une forme primitive de démocratie à l'athénienne, ainsi qu'il le comprenait maintenant. Jamais il n'avait abordé le sujet, mais il avait remarqué que les 400 personnes formant la communauté d'Ardis, un chiffre nettement réduit à l'issue du massacre perpétré par les Voynix auquel il avait assisté via le Turin de l'Eiffelbahn, la considérait comme un chef de facto, un rôle qu'elle détestait tout en le remplissant avec autorité. En prenant l'usage systématique du vote, Ada cherchait de toute évidence à jeter les bases d'une future démocratie, au cas où la communauté survivrait à ces épreuves. Mais si le Turin rouge était le reflet de la réalité, et Harman n'avait aucune raison d'en douter, Ardis appartenait désormais au passé. 400 personnes, ça fait une communauté. Une cinquantaine de survivants, ça ne suffit pas. Les radiations semblaient avoir brûlé le plus gros des muqueuses de sa gorge, car il recrachait du sang chaque fois qu'il déglutissait, ce qui l'agaçait prodigieusement. Il s'efforça de ralentir le rythme de ses déglutitions, une tous les 10 pas environ. Sa main droite, son menton et son torse étaient maculés de sang. Il le savait parfaitement. Il aurait été intéressant de découvrir les structures sociales et politiques auxquelles son espèce aurait fini par aboutir. Peut-être que, même avant les attaques des Voyniks, la population humaine, 100 000 individus tout au plus, était insuffisante pour mettre en branle la dynamique nécessaire à une vie politique, religieuse ou sociale digne de ce nom. Mais Harman ne le pensait pas. Nombre de ces banques mémorielles protéiniques le renvoyaient aux exemples d'Athènes et de Sparte, sans parler des cités grecques qui y avaient précédé leur ascension. Les héros de l'épopée du Turin, qu'il identifiait maintenant à l'Iliade d'Homère, régnaient parfois sur de minuscules royaumes, ainsi l'Ithaque d'Odysseus. En pensant à l'épopée du Turin, il se rappela l'hôtel qu'il avait aperçu un an plus tôt à Paris-Cratère, lorsqu'Ada et lui avaient rendu visite à Daéman après qu'il eût été dévoré par un dinosaure. Un hôtel dédié à l'un des dieux de l'Olympe, il avait oublié lequel exactement. Cela faisait 1500 que son peuple traitait les post-humains comme des ersatz de divinité, mais quelle forme prendrait à l'avenir leur sentiment religieux? L'avenir. Harman marqua une pause pour reprendre son souffle, adossé à un rocher noir qui saillait de la paroi nord de la brèche, et il s'efforça de penser à l'avenir. Ses jambes étaient prises de tressaillement. On aurait dit que leurs muscles se dissolvaient sous ses yeux. Pente lent, le souffle de plus en plus saccadé, Harman regarda droit devant lui et tiqua. Le soleil était perché tout au fond de la brèche. L'espace d'une seconde d'horreur, il crut que l'aube venait à peine de se lever et qu'il avait marché dans la mauvaise direction, puis il comprit que la journée s'achevait sans qu'il l'ait vu passer. Le soleil descendait des nuages et se préparait à sombrer derrière l'horizon, au fond de cet interminable couloir qu'était la brèche. Harman fit 2 pas de plus et tomba à terre. Cette fois-ci, il fut incapable de se relever. Il dut mobiliser toute son énergie pour se redresser sur son coude droit, désireux de ne pas rater le coucher du soleil. Son esprit baignait dans la clarté. Il avait cessé de penser à Shakespeare, à Keats, à la religion, au paradis, à la mort, à la politique et à la démocratie. Harman pensait à ses amis. Il revit Anna éclatant de rire lors d'un moulage, son enthousiasme juvénile, le bonheur de ses amis lorsqu'il fabriquait le premier artefact en bronze depuis des temps immémoriaux. Il revit Pétir débattant avec Odysseus durant les temps où le guerrier barbu dispensait ses cours de philosophie et animait d'étranges dialogues sur la colline herbue derrière le château. Quelle énergie, quelle joie durant ces séances. Harman se rappela la voix éraillée de sa vie et son rire plus éraillé encore. Il se rappela les cris de joie que Daéman et lui avaient poussés lorsqu'elle les avait fait sortir de Jérusalem dans un rampeur, laissant derrière eux des milliers de Voyniks frustrés. Et il revit le visage de son ami Daéman, un visage dédoublé. Le vieux garçon bedonnant et égoïste qu'il avait connu jadis, et le jeune homme grave et athlétique, auquel il aurait confié sa vie sans hésiter, qu'il avait vu pour la dernière fois quelques semaines plus tôt, le jour où il avait quitté Ardis aux commandes du Sony. Et, alors que le soleil s'insérait à la perfection dans la brèche, semblant à peine frôler les parois nord et sud, il sourit en entendant un sifflement comme en produirait un nuage de vapeur, sans doute une illusion auditive. Harman pensa à Ada. Il pensa à ses yeux, à son sourire, à sa douce voix. Il se rappela son rire, ses caresses, la dernière fois qu'ils avaient couché ensemble. Harman s'autorisa à se souvenir du moment où le sommeil leur était venu. Ils s'écartaient toujours l'un de l'autre pour se rapprocher ensuite en quête de chaleur. Ada se collait à son dos, lui passait le bras droit autour du torse, et plus tard, c'était lui qui se collait au dos d'Ada, au dos parfait d'Ada, se sentant légèrement durcir alors même qu'il retombait dans le sommeil, le bras gauche passé autour de la poitrine d'Ada, la main gauche refermée sur son sein. Harman constata que la croûte de sang qui lui couvrait les paupières l'empêchait de battre des cils, sans parler de fermer les yeux. Le soleil couchant, qui commençait à sombrer au fond de la brèche, gravait sur sa rétine des échos rouge-orangés. Aucune importance. il n'aurait bientôt plus besoin de ses yeux. Il se concentra sur l'image d'Ada dans son esprit et dans son cœur, sur le disque à présent réduit de moitié qui disparaissait à l'ouest. Un objet vint s'interposer entre le soleil et lui. Son esprit mourant demeura incapable de réaction durant plusieurs secondes. Quelque chose était entré dans son champ visuel et l'empêchait de voir la fin du coucher de soleil. Toujours appuyé sur son coude droit, il porta sa main gauche à son visage pour chasser les croûtes de sang de ses yeux. Une créature se tenait à moins de 6 mètres de lui. Elle avait dû émerger de la paroi nord de la brèche. Sa taille et sa forme générale correspondaient à celles d'un enfant de 8 ou 9 ans, mais elle était vêtue d'un étrange costume de métal et de plastique. Là où se seraient ouverts les yeux d'un petit garçon, Arman ne voyait qu'une visière noire. À l'article de la mort, le cerveau cesse peu à peu d'être alimenté en oxygène, lui souffla une mémoire protéinique à laquelle il n'avait rien demandé, et il n'est pas rare que surviennent des hallucinations. Cela explique les récits faisant état d'un long tunnel s'achevant sur une lumière éblouissante et « mon cul », songea Arman. Il observait une lumière éblouissante au bout d'un long tunnel, même si seul un morceau du soleil affleurait encore, même si les deux parois de la brèche rayonnaient de lumière, comme un moirage aux nuances d'argent, comme des millions de facettes de lumière mouvante. Mais cet enfant en tenue de métal et de plastique, en costume rouge et noir, cet enfant était bien réel. Et sous les yeux d'Arman, une deuxième créature, bien plus grande et bien plus étrange, émergea à son tour de la paroi nord de la brèche, non sans difficulté. Ce champ de force est semi-perméable, mais uniquement pour un être humain et ce qu'il transporte sur lui, se dit-il. Et cette deuxième apparition n'avait vraiment rien d'humain. Deux fois plus volumineuse qu'un Droski de belle taille, elle évoquait un crabe robotique géant pourvu de pinces et d'une multitude de pattes et d'une carapace vérolée dont l'eau ruisselait en abondance. Personne ne m'avait dit que l'article de la mort serait aussi drôle, songea Arman. Le petit garçon s'approcha de lui. Il s'exprimait en anglais, d'une douce voix enfantine, et Arman pensa à son futur fils.
« Pouvons-nous vous aider, monsieur ? »
dit-il.